une ferme avec des vaches. Une époque, c'était une grosse ferme.
Donc, nous sommes dans la Creuse,
oui.
Avec Thierry Thévenin, porte-parole du syndicat des simples, mais surtout producteur de plantes médicinales.
Voilà, c'est ça. Ça fait une trentaine d'années que je suis ici. Donc, on est juste entre le Puy-de-Dôme et la Creuse, du côté d'Aubusson. Et donc, je cueille des plantes sauvages, j'en cultive quelques-unes dans mon jardin et je les sèche pour en faire des tisanes. Donc, producteur de plantes médicinales, moi je dis paysan herboriste.
Des simples et des mélanges, l'herboristerie sous certificat, Franck Toraval, Anne Fleury. Bon, si on allait visiter ce jardin des simples.
En fait, ça commence tout de suite, hein, mais c'est un peu la définition pour moi des simples, c'est que c'est vraiment les remèdes qui sont sous nos pieds et à peu près où qu'on soit. Donc là, dans ce jardin, qui n'est pas très grand, hein, qui fait 1500 m², il y a une partie de la flore qui était là avant même que j'arrive. Après, il y a des plantes qui ont été plantées, qui sont restées, des arbres, parce que souvent ça dure un peu longtemps. Puis après, moi, j'ai introduit pas mal d'espèces. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 400 ou 500 espèces.
Alors, il y a une architecture autour d'un pommier.
Autour d'un pommier, il y a un très grand nombre d'espèces. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, au départ, j'avais pas spécialement délimité des carrés comme ça. Et du coup, c'était un peu compliqué on savait plus où mettre les pieds. Donc à un moment donné, je me suis dit, allez, on va essayer de faire des allées. Donc on a fait un système comme ça, effectivement, un dessin qui est très facile à parcourir parce que ça fait comme une étoile inversée. Et il s'est trouvé que j'ai laissé ce pommier au centre et que c'est vrai que là, du coup, c'est un peu rigolo, hein. Ça s'est fait, je m'en suis rendu compte après coup. Je me suis dit, c'est le jardin d'Éden avec le pommier au centre et l'arbre de la connaissance, mais ça a été absolument involontaire. Et cet espace-là me sert autant comme zone de production, j'y récolte des plantes ou parfois des graines pour pouvoir les ressemer, et aussi comme un peu un jardin-école. Parce que quand même, les plantes médicinales, ce qui est important, et ça depuis les temps les plus anciens, c'est qu'il faut transmettre les savoirs. C'est complexe. Il y a beaucoup d'espèces différentes, parfois qui se ressemblent et qui n'ont pas les mêmes usages, ou suivant la partie qu'on récolte, au moment où on la récolte, elle ne va pas avoir les mêmes usages. Et donc ça fait aussi un support pédagogique qui est assez génial, quoi.
Les vertus médicinales des plantes, préparées par infusion, décoction ou macération, sont connues de nos ancêtres depuis les temps les plus anciens. Les animaux en ont toujours fait l'usage. Mais les herboristes, médecins empiriques des pauvres, ont dû affronter ces deux derniers siècles la montée en puissance de la pharmacie et de son industrie, portée par des découvertes majeures. Jusqu'à cette loi du 11 septembre 1941, où le régime de Vichy supprime le certificat d'herboristerie créé sous Napoléon. Dès lors, la profession aurait dû s'éteindre après le décès des derniers certifiés. Et pourtant, bonjour Ida Bost.
Bonjour.
Nous sommes au Jardin des Plantes devant le jardin botanique qui se trouve avoir été une école de botanique.
Au XVIIIe siècle, ça a été l'un des lieux où il y avait un enseignement ouvert et qui avait l'intérêt aussi d'être donné en latin et en français, et qui était ouvert à tous. Et donc les herboristes du XVIIIe, un certain nombre d'entre eux venaient se former ici pour apprendre un peu les plantes. Donc au XVIIIe siècle, il y a trois grands corps de médecine, on va dire. Il y a les chirurgiens en haut, ensuite les médecins, ensuite les apothicaires. Mais dans la réalité des faits, déjà ces trois grands corps ne sont pas imperméables, c'est-à-dire il y a des médecins qui font de la pharmacie, etc. Et puis, il y a autour de ces trois personnages tout un tas d'autres acteurs, dont les herboristes. Et les herboristes au XVIIIe siècle ne représentent pas du tout une classe homogène. Il y a à la fois des herboristes ambulants, il y a des herboristes qui sont dans des boutiques, il y en a qui font ça à l'année, il y en a qui font ça de manière en appoint, etc., etc. Mais ce qui va changer, c'est qu'il y a un groupe d'herboristes de Paris qui se forment notamment ici au jardin et qui se réclament d'un savoir et qui essayent de contrer l'influence des apothicaires. Et pour contrer l'influence des apothicaires, ils vont s'adresser directement aux médecins, donc ils sont hiérarchiquement supérieurs aux apothicaires. Et ils vont demander aux médecins leur protection, et en échange, ils s'engagent à passer un examen qui prouve qu'ils connaissent exactement les plantes. Et dans un premier temps, la faculté de médecine va accorder cet examen, Et il y a deux herboristes qui vont passer et réussir cet examen. Donc le premier, c'est Edmé Gillot, c'était en 1778. Et la même année, c'est le Sieur Louis. Et à la suite de ça, donc, les herboristes se disent « C'est génial, il faut continuer, nous aussi on veut passer cet examen. » Mais la faculté de médecine ne répond plus et ne soutient plus les herboristes. Il faut dire qu'à l'époque, il y a la révolution qui arrive, le contexte est extrêmement compliqué. En 1791, c'est la suppression des corporations de métiers.
Là, c'était une période agitée, hein. On a aboli toutes les corporations, les jurandes, enfin tout le système qui organisait les métiers. Ça a duré une dizaine de jours parce que très rapidement, il y a un monsieur qui s'appelait Livret, qui était apothicaire, enfin qui était pharmacien, puisque depuis 1777, on les appelait déjà des pharmaciens, et qui va voir le comité de salubrité publique. Celui qui dirigeait ce comité-là, c'était Guillotin. Et il va les voir en lui disant « Oh là là, c'est une catastrophe, il y a beaucoup d'accidents dans tout le pays, il faut absolument rétablir la corporation des apothicaires, il y a des gens qui font n'importe quoi. » Et il est suivi. Il est écouté, alors que son frère avait été un des apothicaires de la famille royale. Donc on voit un peu la puissance de la corporation des pharmaciens qui finalement passe la révolution sans encombre. Autant on a supprimé, il y a des corporations qui n'ont jamais été rétablies, autant celle des pharmaciens, en moins de 15 jours, elle est rétablie.
C'est une grande période de libéralisme, c'est ça ?
Il est possible de se dire médecin, il suffit de payer patente et on s'installe comme médecin. C'est extrêmement dangereux et c'est pour ça d'ailleurs que Napoléon Bonaparte, l'un de ses premiers actes, va être de reconstruire le système médical français. Et dans la loi de Germinal, donc du 11 avril 1803, il a inclus un article qui crée le certificat d'herboriste délivré après un examen. C'est une très grande loi au sens propre parce qu'elle fait 4 titres et 38 articles. Et c'est une très grande loi au sens figuré. Elle crée tous les droits et devoirs des pharmaciens. Et l'article 37 du titre 4 apparaît comme une véritable ovni. En 3 phrases, il crée un certificat en disant « Bon, bah, désormais, pour être herboriste, c'est-à-dire pour pouvoir vendre des plantes médicinales indigènes fraîches ou sèches, il faudra avoir passé un examen devant un jury de médecine ou devant des pharmaciens. » Faire enregistrer le certificat et on aura le droit donc d'exercer. Mais d'abord, la loi ne définit pas exactement les droits des herboristes. Un herboriste a le droit de vendre des plantes médicinales indigènes fraîches ou sèches, mais elle ne précise pas est-ce qu'il a le droit de les mélanger, est-ce qu'il a le droit de faire des transformations, est-ce qu'il a le droit de faire des tisanes, etc. etc. C'est d'autant plus problématique que cette même loi rappelle que seul le pharmacien a le droit de vendre sous forme de médicaments. Mais la loi de Germinal ne définit pas ce qu'il faut entendre par médicament. Or la plante médicinale, a priori, c'est une plante qui soigne. Donc si elle soigne, c'est qu'on pourrait penser qu'elle est un médicament. Donc la grande question et le grand point faible de la loi de Germinal va être ça. Est-ce que l'herboriste a le droit de mélanger ou est-ce que dès l'instant où on mélange les plantes, c'est un médicament, donc c'est réservé aux pharmaciens ?
La personne qui a vraiment été à l'origine de la loi de 1803, c'est Fourcroix, qui était un personnage vraiment très important à qui Napoléon a confié ce travail-là. Et lui, il est très loin de l'herboristerie. C'était un élève de Lavoisier qui avait dit c'est l'apôtre de la nouvelle chimie. Donc c'est des gens qui étaient vraiment pour qui les plantes, c'était quelque chose, c'était des breuvages de sorciers, c'était le passé, c'était le Moyen-Âge. On va pas tarder d'ailleurs à isoler les premières molécules, hein, la caféine, la morphine, quelques années plus tard. Et donc, l'herboristerie, pour lui, c'était vraiment quelque chose qui était même dangereux. C'était juste des espèces de plantes poussiéreuses en mauvais état. Ce qui était pas forcément tout à fait faux, parce que c'est vrai que les échoppes d'herboristerie, du côté de ce qui est aujourd'hui Beaubourg, là, dans la rue des Lombards ou quoi, c'était souvent un peu des étals à tout vent. Et il y avait sans doute effectivement souvent des plantes pas toujours de très bonne qualité. Mais voilà, c'est une époque où on renvoie ça vraiment au passé. Et où l'avenir, on se dit, c'est la chimie.
Loi du 11 avril 1803. Article 33. Les épiciers et les droguistes ne pourront vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique sous peine de 500 livres d'amende. Ils pourront continuer de faire le commerce en gros de drogues simples, sans pouvoir néanmoins en débiter aucune au poids médicinal. Article 36. Tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses sur des théâtres ou étalages dans les places publiques, foires et marchés, toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets sous quelque dénomination qu'ils soient présentés, sont sévèrement prohibées.
La deuxième chose, c'est que la loi place les herboristes sous la tutelle des pharmaciens, puisque ça va être dans les écoles de pharmacie et dans les facultés mixtes de pharmacie et de médecine que vont se dérouler ces examens. Ça veut dire que c'est le concurrent, celui qu'on voulait éviter, qui désormais décide qui a droit ou pas d'être herboriste. Et puis la troisième chose, c'est que la loi ne met en place aucune formation pour les herboristes. D'ailleurs, c'est un certificat, ce n'est pas un diplôme. C'est simplement un examen, et on l'a ou on ne l'a pas. Et cet examen, de tous les témoignages que j'ai pu recueillir, repose sur la reconnaissance d'une cinquantaine de plantes fraîches, puis d'une cinquantaine de plantes sèches. Alors reconnaissance signifie nommer, par le nom latin. Et ensuite, il y a des questions variables, mais qui sont des questions de botanique. Toute la partie thérapeutique de la pratique herboristique n'est pas abordée dans l'examen. C'est pas très étonnant, parce qu'on sait que ce sont les pharmaciens qui organisent ces examens. Et c'est assez logique que des pharmaciens n'aient pas envie que des herboristes sachent empiéter sur leur domaine. Mais ça a fait de l'herboriste un personnage complètement atypique, puisque son savoir n'avait rien d'académique. Il se formait comme il le souhaitait. On évaluait sa capacité botanique à reconnaître, etc. Et ensuite, il devait être installé dans une boutique.
C'était une compétence finalement, oui, d'une certaine manière assez limitée, mais elle avait été réfléchie pour des gens qui devaient simplement faire le commerce de plantes médicinales, plutôt en ville, et donc qui de toute façon avaient une offre relativement limitée. En fait, ils devaient continuer d'apprendre sur le tas. Moi, je pense que les herboristes, quand ils sortaient de leur certificat, c'était un peu comme quelqu'un qui a son permis de conduire. Un peu un danger public, quoi. Et ça prend souvent une dizaine d'années avant d'être vraiment un conducteur affirmé. Eux, ça devait être un peu la même chose. Et où il y a eu un malentendu, c'est qu'en fait, ils ont vite dérivé face à la demande de leurs clients, et puis parce qu'ils, je pense qu'il y a une place légitime, qu'ils se sont engouffrés dans quelque chose que la société attendait, ils sont devenus plutôt des thérapeutes, des gens qui soignent avec les plantes.
On continue la visite ?
Oui. Donc une plante comme celle-ci, elle est intéressante parce que là, cette saison, elle ressemble à pas grand-chose et tout le monde va passer à côté. Même quand elle est en fleurs, elle a des fleurs minuscules, pas très très attractives selon les canons de notre époque. C'est une des herbes les plus sacrées pour lesquelles on a vraiment voué un véritable culte dans l'Antiquité et même jusqu'au Moyen-Âge. C'est la verveine officinale. On parle souvent du gui comme la plante des druides. En fait, la verveine était encore bien plus importante pour cueillir cette plante. On devait d'abord jeûner, se purifier. On devait la ramasser soit nue, soit dans un vêtement sans couture. Enfin voilà, on portait une attention absolument incroyable à cette plante. Ça allait même jusqu'à venir à reculons. Il fallait se retourner au dernier moment pour l'attraper. Parce que, à cette époque, on pensait que quand on cueillait une plante, on cueillait pas simplement de la matière, comme une matière première pour une industrie pharmaceutique ou juste comme un assemblage de molécules, mais on cueillait aussi une âme ou un esprit. Alors à l'époque, on pouvait parler de nymphe ou de dryade ou de divinité. En tout cas, on pensait que la plante était habitée. Et aujourd'hui, alors c'est des recherches qui font encore beaucoup de polémiques dans le milieu scientifique, mais il y a des gens qui regardent ce qui se passe au niveau d'une plante et du résultat quand on les cueille, et on se rend compte que l'intention au moment de la cueillette peut avoir un impact sur la qualité de la plante et sur son action. Donc il y a vraiment des fois une circulation des savoirs qui sont réappropriés. C'est assez étonnant. Il y a une catégorie de personnes qu'on permet à la fois de diffuser les plantes et les savoirs qui étaient associés, c'est les colporteurs. Ça aussi, c'est un peu une face cachée de l'herboristerie. En fait, ces gens-là arpentaient la France. Ils transportaient souvent des graines, des plantes. Ils transportaient souvent les petits livres de vulgarisation. Et donc, ils ont vraiment participé à cette diffusion-là.
Mais certains donnaient des conseils de soins ?
Ah, très certainement, oui. Voilà, et il y en a qui s'étaient spécialisés un petit peu sur les plantes, notamment les gens de la montagne de Lure, donc en Provence. Et on voit que des fois, au fil des générations, ils se sont transformés, effectivement, soit en herboriste, soit en pharmacien. Il y a un exemple presque contemporain, hein, qui est très connu, c'est l'herboristerie du Père Blaise à Marseille, qui aujourd'hui donc est tenue par Amel Blaise, qui est pharmacienne, mais elle se réclame beaucoup de son ancêtre, qui était un colporteur et qui allait emmener les herbes qu'il avait récoltées autour de Marseille avec son âne.
Et est-ce que cette loi de 1803 va régler les conflits qui existaient jusque-là ?
Elle ne va pas réellement les régler, il va y en avoir toujours, mais tout au long du 19e, ces conflits ne sont pas trop violents, ne sont pas trop apparents.
Ida Bost.
L'herboriste du 19e, c'est quelqu'un qui est dans une boutique, mais qui ne vend pas que du soin. C'est vraiment quelqu'un qui est inscrit dans le quotidien. On y va pour aller chercher des petites épines de l'épicerie pour la soupe, du fil à coudre pour le mari et en même temps la tisane du petit dernier. Tandis que le pharmacien, lui, n'a pas le droit de vendre autre chose que du soin dans sa pharmacie. La pharmacie est un espace dédié. Ensuite, l'herboriste, on n'y va pas avec une ordonnance d'un médecin, ou etc. On y va d'abord dans une démarche d'automédication, ou ensuite on y va parce qu'on ne peut pas aller voir le pharmacien et le médecin, ou parce que le pharmacien et le médecin n'ont pas répondu, n'ont pas réussi à soigner. L'herboriste, ce n'est pas réellement le pharmacien du pauvre, c'est le médecin du pauvre. Les herboristes sont installés dans les quartiers les plus populaires. À Paris, c'est le quartier du Marais, c'est les quartiers périphériques des portes. Tandis que les pharmaciens vont être plutôt dans les quartiers centraux, type Palais-Royal, etc. L'herboriste, c'est vraiment c'est un personnage atypique qui revient beaucoup dans la littérature populaire. Et donc, on va le voir quand on cherche un miracle aussi. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui a une image multiple. Alors, d'un côté, il y a l'image du guérisseur, du soigneur, de quelqu'un qui connaît intimement les plantes, qui a un savoir ancestral, etc. De l'autre, il y a l'image de l'empoisonneur, de l'avorteur, le sorcier négatif sous son aspect négatif. Et enfin, il y a une troisième image qui apparaît dans la littérature, qui est un peu le benêt, l'idiot. Il vient d'un milieu pauvre, il n'a pas de formation nécessairement, parce que pour passer le certificat d'herboriste, jusqu'en 1916, il était possible, théoriquement, de n'avoir jamais mis les pieds à l'école. Et à Paris, l'examen était oral jusqu'en 1939.
Vous dites « il », mais en l'occurrence, c'est plutôt « elle ».
Effectivement, et en 19e siècle, les herboristes sont très majoritairement des femmes. C'est un métier de femme. Alors, un métier de femme au 19e, c'est un métier qu'on exerce de manière sporadique. La femme n'est pas supposée travailler tout au long de sa vie. Elle a le droit de travailler avant de se marier, quand elle se marie, si son mari vraiment a besoin, ou quand elle est veuve. Mais quand elle a des enfants, elle est supposée arrêter de travailler. Deuxième chose, c'est un métier qui est compatible avec l'idée qu'on se fait à l'époque de la femme, puisque l'herboristerie, ce n'est pas réellement une boutique, c'est un vrai lieu de vie. On y élève les enfants, on y mange, on y fait même parfois dormir le personnel. Et donc c'est un métier qui va s'accompagner notamment du métier de sage-femme. On passe souvent les deux, on est souvent et sage-femme et herboriste. Et qui va pleinement être utilisé et pris en main par les femmes. Et je pense aussi notamment parce que dans la période, on a trois grandes guerres. 70, 14, 18, 39, 45. Et les femmes vont avoir besoin aussi d'exercer ce métier d'herboriste pour pallier au mari qui est au front.
Par jugement, en date des 18 et 25 février 1885, ont été condamnés pour exercice illégal de la pharmacie la dame Philippe, herboriste, boulevard Voltaire de 109 à l'amende et à 100 francs de dommages-intérêts. La dame 1, épicière herboriste, rue de la Butte aux Cailles, 22 à l'amende et à 100 francs de dommages-intérêts. Le sieur Carré, marchand de couleurs, rue du Faubourg Saint-Antoine de 109 à l'amende et à 10 francs de dommages-intérêts. Le sieur Chaillot.
Alors, est-ce qu'à cette époque, les autorités ont tendance à punir les herboristes pour limiter leur pratique au cadre spécifique de la loi de 1803?
Alors, durant le 19e siècle, l'historien Olivier Faure dit qu'il y a tellement d'exercices illégaux que finalement, on ne le poursuit pas beaucoup. En revanche, à la fin du 19e et dans le 20e, alors là, oui, les procès vont se multiplier largement. Parce qu'en fait, tout au long du 19e, le nombre d'herboristes augmente très très fortement. En 1916, on a 1220 herboristes en France, dont 43,3% qui sont dans le seul département de la Seine. Ils s'accumulent dans les villes, parce que c'est en ville qu'on a besoin d'acheter ces plantes. Dans la campagne, on va les chercher. Et le problème, c'est qu'en parallèle, la pharmacie connaît un énorme développement. Et à la fin du 19e, il y a de plus en plus de jeunes pharmaciens qui n'arrivent pas à s'installer et ça se voit vraiment dans la répartition géographique. C'est-à-dire que dans la première moitié du 19e siècle, à Paris, il y a des quartiers à herboristes et il y a des quartiers à pharmaciens. À partir de la seconde moitié du 19e, on voit des herboristes dans les quartiers à pharmaciens et des pharmaciens dans les quartiers à herboristes. Et ça va attiser réellement la concurrence entre les deux professions et les pharmaciens vont commencer à réellement taper sur les herboristes parce qu'ils estiment qu'eux n'ont même plus de quoi exercer leur profession, il y en a trop, ils sont trop nombreux. Et donc en 1879 se crée donc l'Association Générale des Pharmaciens de France, et dès l'année suivante, l'association soutient une première proposition de loi pour supprimer les herboristes. Et à partir de là, vous allez vraiment avoir tous les syndicats de pharmaciens qui vont multiplier les procès à l'encontre des herboristes pour exercice illégal de la pharmacie.
Un herboriste peut-il vivre en vendant pour 4 sous de bouillon blanc ou de fleurs de violette? Assurément non. Qu'arrive-t-il? L'herboriste fait un autre métier, comme le vitrier se console dans la friture de l'invention des verres incassables. Il tient de l'épicerie, de la faïence, de la porcelaine et même des jouets d'enfants. Celui-là reste dans la légalité. Mais il en est d'autres qui font de la pharmacie. Ceux-là sont nombreux, qui donnent même des consultations. Voilà les coupables. Les médicaments ne sont pas à l'étalage, bien entendu. On les trouve dans l'arrière-boutique. La cuisine est souvent transformée en laboratoire. Le garde-manger cache discrètement le laudanum à côté du vinaigre pour la table. Seront-ils corrigés pour l'avenir? Quelques-uns, oui, mais beaucoup, non. Ils cacheront mieux leurs délits pour la prochaine inspection. Tel est souvent le résultat acquis. Que faire? Ma réponse est toute prête. Supprimer les herboristes. Docteur Paul Cazeneuve, 1879.
On a autre chose à voir dans cette parcelle? Là, on a de l'osier.
Ah ben là, c'est pour faire des paniers. L'écorce de saule a des propriétés médicinales. C'est sur une migraine. C'est à partir de recherches sur l'écorce de saule qu'on a fini par fabriquer l'aspirine.
Mais c'est quelle époque, ça, le passage de l'écorce de saule à l'aspirine?
C'est 19e. Le 19e, c'est vraiment un basculement, quoi, une époque charnière, où on cesse, enfin en tout cas dans le monde de la pharmacie, de considérer que la plante est le remède, mais elle devient une matière première dans laquelle on va chercher des molécules, des extraits pour soigner. L'idée, c'est la mesure. On arrive dans un siècle qui mesure, et on considère que la plante, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable, donc on va chercher à... La puissance aussi. C'est sûr que des fois, avec un extrait très concentré, on a un effet, on a un peu un effet bœuf, quoi. Quitte à avoir, c'est un prix à payer, des effets secondaires, des fois, plus puissants. Mais ça va très vite, c'est une période où ça va très vite. C'est l'émergence des vaccins. Le premier vaccin, c'est vers 1820. En 2 ans, il y a plusieurs millions de Français qui sont vaccinés. Ça va extrêmement vite.
Donc, on se retrouve début du XXe siècle avec des herboristes syndiqués qui commencent à asseoir une profession.
C'est ça. Chaque syndicat a sa revue, la fédération a sa propre revue, ils diffusent énormément. La fédération donc, qui regroupait tous les syndicats, la fédération a voulu, pour répondre à la menace contre le certificat, a voulu transformer l'image des herboristes. Et a voulu faire de l'herboristerie une science. Et elle crée en 1927 l'École nationale d'herboristerie. Donc l'École nationale d'herboristerie n'est pas nationale, bien sûr. Elle n'est pas reconnue par l'État. C'est une école privée qui est même un peu chère parce qu'elle coûte 1000 francs à l'année quand même. Et qui donne des cours soit en journée, soit en soirée et week-end pour préparer au certificat. Mais c'est une école incroyable, extrêmement poussée, qui va de la déontologie à la biologie, à la physique, à la botanique, etc. L'école donc, était d'abord 79 rue du Temple, dans une petite bâtisse. Elle déménage 123 rue de Lille, dans des beaux bâtiments. Et là, on a un laboratoire, on a un jardin botanique, on a une bibliothèque. L'idée, c'est vraiment de prouver que ces herboristes peuvent avoir une excellence scientifique. Et par ailleurs, les syndicalistes vont pousser à transformer les boutiques. Donc on range tout dans des petites boîtes, plus de vrac. On se met à porter des blouses blanches. Il y a un rejet de l'amateur. Et les herboristes ont voulu suivre. Ils ont voulu suivre. Et en fait, ils ont pris modèle sur la pharmacie. Ils se sont même dit qu'ils allaient créer un codex herboristique. Et je pense que ça a aussi joué, ça a été aussi un élément qui a attisé la colère des pharmaciens en disant « Mais regardez, vous faites pareil que nous, alors ça sert à rien. »
C'est un certificat d'aptitude, vous avez raison. Mais de la faculté de pharmacie. Parce que la faculté de pharmacie donnait des cours à ses étudiants, futurs pharmaciens, mais pas s'occupait pas des herborus. Simplement, il leur faisait passer un examen.
Alors, Marie Rubio, on a sous les yeux là votre certificat d'aptitude à la profession d'herboriste, qui est daté du 17 novembre 1941.
Ouais.
Ce qui est donc...
Le dernier diplôme.
Le diplôme.
Le dernier papier que la pharmacie a donné. La faculté de pharmacie.
Celle de Paris, hein.
Ah oui.
Vous êtes parisienne, née à Paris.
Ici.
En 1939, vous avez 17 ans à l'époque.
19 ans, parce que je suis née en 20. J'ai été malade, j'ai fait une pleurésie à 15 ans. Et je n'avais pas la possibilité de faire des études universitaires. Alors maman disait, il faut tout de même qu'elle soit quelque chose. Elle s'en va en face voir une voisine. Et qu'est-ce qu'elle fait, votre nièce? Ah ben, elle a passé le diplôme d'herboriste. Et ça a été embrayé par une voisine.
Il y avait une formation officielle?
Non, il n'y avait rien. Que le passage pour essayer d'écarter ces chiens galeux. Ah ben oui. Un herboriste par rapport à un pharmacien, ça a toujours été mal vu. Et puis c'est comme ça que je me suis fait inscrire à une école qui faisait de la botanique médicale, de chimie, un petit peu d'histoire, enfin plein de trucs. Tout ça, c'était intéressant, c'était un programme exceptionnel. Mais au point de vue, ce que la faculté de pharmacie demandait de reconnaître 50 plantes fraîches et 50 plantes sèches, ben c'était déficient. Alors les élèves ont été rhabillés. C'est là où une autre école qui ne faisait que du bachotage.
Il y avait en fait différentes formations privées qui...
S'inscrire comme école d'herboristerie.
Et dans votre deuxième formation, la personne qui donnait les cours, elle avait quoi, elle, comme...
Rien. Elle était la femme d'un ancien employé de la faculté de pharmacie. Alors on revenait avec des brassées de plantes et on les étudiait. Il y en a qui passait, elle reprenait et l'étudiait, en redonnant et le nom et la famille. Elle, c'était un travail de préparation pour l'examen. Tout le monde ne l'a pas eu, mais moi je l'ai eu.
Vous avez souvenir, vous, du jour de l'examen?
Il y avait 10 tables à reconnaître. Une fraîche, une sèche, une fraîche, une sèche. 10 tables, 5 minutes, pour donner le nom et la famille. Au bout de 5 minutes, changer de table.
Jamais aucune question sur les vertus de certaines plantes, le principe actif, quelles étaient leurs vertus thérapeutiques, etc.
Jamais. Parce qu'à ce moment-là, c'est du soin.
Alors.
Allez voir votre pharmacien.
Mais parmi les gens qui obtenaient leur certificat d'herboristerie, la plupart des gens cherchaient à travailler comme herboriste, j'imagine.
Oui, c'est ça. Avec leur diplôme, ils pouvaient. Moi, je ne me voyais pas, à 19 ans, créer une boutique. Mais à ce moment-là, j'ai passé mon diplôme de massage, de kinésie, à la faculté de médecine. Et puis là, bah, j'étais libre en exercice de faire du massage, de faire un tas de choses. Et je me suis mariée après, en 51. J'ai un bonhomme qui est arrivé très peu de temps après, et mon fils. Mais il n'était plus question que je fasse de massage.
Donc on peut croire à ce moment-là que... Fini l'herboristerie, fini le massage. Mais
oui, exactement.
On est en 1965. Vous trouvez cette annonce de gens qui cherchaient quelqu'un ayant un certificat pour pouvoir continuer d'exercer l'herboristerie.
Alors, je vais au premier, rue d'Amsterdam. Alors, il commence à se dire, oh là là, l'inspecteur des pharmacies. Parce que la personne qui avait acheté à cet herboriste la boutique... Cette personne était pharmacienne. Et elle ne pouvait pas exercer dans la boutique. Elle avait un diplôme de pharmacien. Elle n'avait pas un diplôme d'herboriste.
Donc vous arrivez avec votre diplôme?
J'arrive avec mon diplôme. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, je dis, vous voulez travailler? Je dis, non, moi je voudrais. Je voudrais que mon diplôme, il serve à quelque chose. Ben, écoutez, nous, ça nous intéresse. Dans un coin, faire votre tricot, c'est tout ce qu'on vous demande. Ah, elle était contente. Puis ça a duré 8 ans. Mais dis, vous tracassez pas, vous aurez du boulot.
Donc vous avez repris petit à petit l'activité d'herboriste quand même?
J'ai pris. J'ai pas repris, je l'avais jamais pris avant. J'ai pris l'herboristerie en 65.
Loi du 11 septembre 1941. Article 59. Il ne sera plus délivré d'inscription pour le diplôme d'herboriste après la date de la publication de la présente loi.
Et en septembre 41,
suppression du certificat. Alors la loi cherche à adapter le système pharmaceutique aux évolutions de l'industrie et notamment stipule que désormais, avant de mettre un nouveau médicament sur le marché, il faut un visa de spécialité pharmaceutique qui est accordé par une commission technique composée de médecins, de pharmaciens et de représentants de l'industrie. Donc c'est la première loi qui va définir à peu près le médicament. Un médicament, c'est un médicament par fonction et par présentation. Donc si je l'utilise comme un médicament, c'en est un. Si je le présente comme un médicament, c'en est un. Et donc ça va être la première loi qui va essayer de réformer, de permettre à l'industrie pharmaceutique en plein essor de se développer.
Depuis longtemps déjà, en tout cas depuis le début du XXe siècle, il y a des pharmacies qui ont complètement abandonné l'idée de l'officine, qui ne sont plus du tout des pharmaciens d'officine, et qui commencent à être des pharmaciens d'industrie. Donc il y a DOS, par exemple, le laboratoire, il y a Rhône-Poulenc déjà qui existe depuis très longtemps, et finalement cette loi de 1803, pour eux c'est un frein. Ne peuvent pas se développer vraiment parce que les financiers, la finance, les gens de la finance ne peuvent pas investir dans la pharmacie, ce ne sont pas les mêmes pharmaciens. Et donc ils réclament une pharmacie qui serait plus à l'image de celle de l'Allemagne, qui à l'époque est le grand concurrent, où là on est sur une pharmacie qui est issue de la chimie et de l'industrie chimique. Et je sais qu'en tout cas il y a des pharmaciens d'officine en France qui se sentaient un peu appartenir au passé, et comme ils étaient fragiles, comme ils étaient très nombreux, qu'ils étaient souvent en difficulté économique, je pense qu'ils ont dû dire bon allez... Ok, on va vers cette orientation industrielle de la pharmacie, mais par contre, débarrassez-nous de nos concurrents herboristes.
Et cette loi, hop, fait passer la suppression du certificat.
Est-ce qu'on sacrifie les herboristes ou est-ce qu'on se dit, on est en train de moderniser le modèle de santé, c'est une chance inouïe, les herboristes c'est le passé, oublions-les.
Il y a toute une frange, effectivement, politique qui pensait que les herboristes étaient dépassés. En plus de ça, il y a le début des assurances sociales qui permettent à la population d'accéder plus facilement aux médicaments.
Et aux médecins.
Le médecin, alors, il était possible de se faire rembourser si on allait en herboristerie. Le problème, c'est que les médecins ne faisaient qu'une ordonnance. Et donc les gens n'allaient pas et à la pharmacie et à l'herboristerie. Ils faisaient tout à la pharmacie. Et ça a retiré des clients aux herboristeries. Ensuite, cette loi, elle était là depuis un bon moment. En 1939, la fédération cesse son activité. Il n'y a plus de syndicats, c'est la guerre, ils sont tous au front. Et puis en plus, comme ils sont au front, ils ne payent pas. Et donc, du coup, impossible de faire paraître les revues, impossible de faire les congrès, etc. Donc, on suspend tout. On est dans un contexte où vraiment, ce qu'on aime, en fait, c'est la modernité, c'est ce nouveau médicament chimique qui va sauver les vies. C'est tout un ensemble de choses, en fait, cette suppression.
Et pourtant, en 1946, les herboristes croient que ça va revenir.
Exactement. Au retour de la guerre, ils sont persuadés que ça a été pris sous Pétain. Donc, ça devrait être supprimé. Et il y a plusieurs propositions de loi qui sont faites. Alors, il y a l'idée de créer un nouveau certificat qui associerait les préparateurs en pharmacie. Parce qu'en fait, les préparateurs en pharmacie, souvent, devenaient herboristes. Parce que ce sont des gens qui n'avaient pas forcément l'argent pour faire vraiment des études de pharmacien et qui du coup devenaient herboristes pour être patron, parce que c'était aussi une ascension sociale.
Bonjour, monsieur Barbe.
Celle-ci, je peux en boire un peu plus qu'une tasse, ce ne sera pas gênant ou pas plus qu'une tasse. Il y a une limite.
Donc Michel Pierre, bonjour.
Bonjour.
On est derrière votre herboristerie, oui. Et on va rentrer dans votre...
Dans la cave, la réserve, qui est une cave qui servait à stocker le charbon autrefois et qui est devenue une cave de réserve de plantes pour l'herboristerie qui est juste au-dessus.
Combien de plantes s'y trouvent?
Nous avons environ 400 plantes différentes. Cette réserve est alimentée tous les jours par un local de stockage que nous avons en banlieue parisienne. Alors là, la cave fait 30 mètres carrés, le local de stockage fait 500 ou 600 mètres carrés.
Donc on va y rentrer, on est derrière le Palais Royal. Hein,
oui.
Et on va descendre dans les très très beaux quartiers de Paris, on va descendre dans cette petite cave.
Vous
Donc c'est très exigu, on peut le dire. Hein.
Oui.
Tout l'espace possible a été
utilisé. Oui, tout a été optimisé, parce que les plantes, ça tient beaucoup de place. C'est une odeur, un parfum assez tenace quelquefois, surtout quand les récoltes fraîches arrivent, au mois de septembre, octobre, novembre. Quelquefois, même avec le système d'aération que nous avons, les aspirateurs, le tissu humidificateur, il nous arrive de ne pas pouvoir rester plus de 2 à 3 heures dans la cave.
Donc vous, il y a 45 ans, comment vous arrivez dans l'herboristerie ?
Alors, je suis préparateur en pharmacie de formation, mais j'ai appris ce métier à la campagne, donc avec un état d'esprit bien différent de celui que l'on avait à la ville. C'est-à-dire, on faisait encore des préparations, j'ai fait des pilules de mie de pain, j'ai fait des suppositoires, des gélules, etc., toutes sortes de médicaments que l'on faisait à l'époque. Et puis aussi, on prenait des préparations de plantes, bien sûr. Ensuite, la vie, c'était l'époque où on allait à la ville pour essayer de se faire une situation. Et j'ai travaillé en pharmacie en banlieue parisienne. Et j'étais un petit peu déçu parce que ça ne correspondait pas du tout au métier que j'avais appris. Et je me suis retrouvé déjà à l'époque, il y a 45 ans, distributeur de médicaments. Donc c'est quelque chose qui ne me plaisait pas, qui ne correspondait pas à mon état d'esprit. Et le hasard m'a fait trouver cette herboristerie à acheter.
En quelle année ?
On est en 1972. Donc à cette époque-là, le diplôme d'herboriste n'existait déjà pas, puisqu'il a été supprimé en 1941. Mais il y avait un procès qui a fait jurisprudence et qui autorisait une personne non diplômée à exploiter une herboristerie sous le couvert juridique d'une personne qui disposait de ce diplôme d'avant 1941. Ce qui était le cas. Cette herboriste était un puits de connaissances. Elle me racontait l'histoire pendant quelques heures tous les jours pendant 2 années. Donc petit à petit, elle m'a formé, me racontant, si je puis dire, l'histoire des plantes.
Et donc cette femme que vous avez connue au moment de la reprise, elle avait son diplôme, donc pouvait donner des indications ou pas ?
Non, on n'avait toujours pas le droit de donner des informations. D'ailleurs, c'était l'époque où les inspecteurs en pharmacie venaient dans les herboristeries. Ils étaient connus puisqu'ils n'étaient pas très nombreux. Donc ils posaient la question habituelle de demander un conseil ou de chercher une plante qui était interdite. Bon, à chaque fois, ça nous faisait sourire. Mais moi, j'ai connu les inspecteurs en pharmacie pendant une quinzaine d'années.
Jacques Chancel, 1969.
Maurice Mességuet, vous avez un nom qui attire les procès et vous ne vous êtes jamais privé de faire un petit saut à la barre du tribunal. Toujours dans le fond ce goût pour les délibérations spectaculaires. Maurice Mességuet, vous avez votre public et peut-être votre seul défaut, c'est d'être trop célèbre. Maurice Mességuet, vous êtes guérisseur et j'ai l'impression que d'un coup, on se trouve transporté au Moyen-Âge. Guérisseur, qu'est-ce que c'est ?
Le Larousse dirait un guérisseur est un homme qui guérit, mais d'abord les médecins guérissent leurs malades et les guérisseurs, les empiriques, il y a des magnétiseurs, c'est-à-dire ceux qui soignent par l'imposition des mains. Il y a des gens qui soignent par la prière. Moi, personnellement, je n'ai aucun don d'aucune sorte, je soigne par les plantes.
Toutes ces personnes qui ont pris des risques d'aller devant les tribunaux ont été des précurseurs, parce que la plupart du temps, ils préconisaient des plantes, oui, c'est vrai, pour tisane, mais ils préconisaient surtout un mode de vie un petit peu différent.
Mais Maurice Mességuet vous a précédé dans les ennuis avec la justice.
Tout à fait. J'ai été au tribunal il y a 6 ans et j'ai été relaxé en première instance, condamné en appel à des amendes avec sursis parce que je vendais des plantes faisant partie du monopole de la pharmacie. C'est une chasse du tiroir caisse, vous savez, c'est un monopole qui semble s'échapper de la pharmacie tout simplement. Et le procureur de la République était un petit peu perturbé parce que il a dit Vous exercez un métier formidable, vous l'exercez bien parce que vous avez une bonne réputation, mais je suis obligé d'appliquer la loi. Donc il a demandé une condamnation symbolique. On m'a condamné, mais j'avais quand même une pharmacienne. Je pensais être couvert juridiquement par une pharmacienne. s'ils avaient fait une jurisprudence sur ce procès-là, ça aurait permis aux pharmaciens d'ouvrir des herboristeries à tous les coins de rue.
Mais petite précision, qui vous attaque ?
C'est l'ordre des pharmaciens qui attaque. Je n'ai pas été le seul. Hein. C'était vraiment la chasse aux sorcières. Tout le monde a été attaqué à cette époque-là. Et tout le monde a eu des résultats avec des condamnations minimes, mais condamnations quand même.
On a un témoignage au téléphone, oui. Et c'est Marie-Thérèse qui nous appelle. Bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour Simone, bonjour madame.
Bonjour madame.
Je voudrais vous poser une petite question.
Je suis là pour ça.
Marie-Antoinette Mulot, 1990.
Des petites infusettes de tilleul.
Oui, aïe, aïe.
Et quand j'ai fait la tisane, je n'ai absolument pas trouvé le goût de tilleul.
Eh oui, madame, ce sont des infusettes. Oui. Je ne veux pas parler de ça parce que le laboratoire va m'attendre à la sortie pour me gronder. Mais vous savez, c'est de la poussière de plantes parfois.
Ah, voilà.
Et méfiez-vous bien lorsque vous achetez des plantes dans des boîtes ou dans des infusettes. Regardez la date qui est portée sur la boîte. Oui. Et les plantes ne durent qu'un an, ne sont bonnes que pendant une année.
Oui.
Toutes les années, le 31 juillet, je brûle mes plantes.
Oui, ah, tiens, c'est mieux à ce moment-là acheter du tilleul.
Du tilleul en vrac, madame. Ah, du tilleul de Carpentras en vrac.
Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Attendez, madame, je voulais vous dire autre chose.
À partir, en fait, des années 70-80, il y a un mouvement de critique du médicament chimique.
Ida Bost.
On se rend compte qu'il y a des problèmes environnementaux, qu'il faut qu'on fasse un peu attention, et il y a un renouveau d'intérêt vers les plantes. Et là, ces derniers certifiés, donc comme Marie-Antoinette Mulot, Suzanne Robert, etc., voilà, par exemple, vont être mis sous le feu des projecteurs, soutenus aussi par des gens comme Lyotagui, donc ethnobotanique, mais aussi par des médecins qui vont commencer à s'intéresser à la phytothérapie, à l'aromathérapie, comme Valnay. Tous ces gens-là vont ramener les plantes sur le devant de la scène, et donc les herboristes avec eux. Et on va avoir des écoles qui vont s'ouvrir, alors des écoles privées, bien sûr, puisque ça n'existe plus. Et en 1982, on a l'Association pour le renouveau de l'herboristerie qui ouvre un enseignement. En 83, l'année suivante, on a l'École lyonnaise des plantes médicinales, fondée par Patrice de Bonneval, et puis l'École des plantes de Paris, fondée par Clotilde Boisvert. Et donc tous ces gens sont des gens militants qui veulent absolument que se retransmette le savoir des herboristes. Et d'ailleurs, les derniers certifiés vont beaucoup écrire. Et là, on va avoir plein d'ouvrages d'herboristerie qui vont apparaître avec l'idée qu'il faut impérativement sauvegarder ce savoir qui est en train de disparaître avec les derniers diplômés.
Vous, Clotilde Boisvert, vous êtes une scientifique diplômée de sciences naturelles et vous êtes très vite férue de botanique.
Oui, ça a commencé par un dialogue. J'étais au muséum et on suivait tous les cours qu'on pouvait parce que de plus en plus se rétrécissait l'enseignement de botanique. Il y avait de moins en moins de choses. Et surtout, il n'y avait plus de sorties. Alors, avec quelques amis, on a dit, mais ça va pas du tout. Il faut organiser des sorties. Et j'ai demandé à mon vieux maître Audricourt. Et on a fait des sorties. Audricourt était quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il faisait le tour d'une plate-bande du Luxembourg et il vous racontait d'où venait chaque arbre, de quel pays c'était, comment on s'en servait dans ce pays, etc. Donc on a commencé comme ça. Et il y a un moment où j'ai rencontré, alors je ne me souviens plus du tout comment, Marie-Antoinette Mulot, qui était herboriste. Je pense qu'elle avait fait une conférence à Sannois. Et c'était magnifique ce qu'elle faisait, elle avait 300 personnes qui l'écoutaient, tout le monde était passionné, et moi j'ignorais totalement le problème des herboristes. Un herboriste, je savais vaguement ce que c'était, qu'il vendait des plantes, mais je ne savais même pas qu'on avait supprimé les herboristes. Et là-dessus, on s'est dit, mais on pourrait peut-être faire quelque chose. Et j'ai été voir le professeur Delaveau, à la faculté de pharmacie de Port-Royal, qui lui était pour le rétablissement d'un diplôme d'herboriste. Donc on a beaucoup discuté et on a fait un programme ensemble.
En 83.
Oui.
Vous créez l'école qui va durer 20 ans, qui s'appelait donc l'école des plantes Clotilde de Boisvert.
C'est ça. Et dont le président d'honneur était Paul Jovet. Et Paul Jovet, c'est un grand botaniste du muséum. Il nous a beaucoup aidés de conseils. Sa femme étant botaniste aussi, nous disant, vous savez, chaque plante, il faut la dessiner. Quand ils l'ont dessinée, ne l'oublie plus. Et on a commencer un enseignement en première année, surtout en disant aux personnes qui le suivaient, on vous donnera un certificat de l'école qui n'a aucune valeur professionnelle. Puis après, on faisait 3 années.
Et alors, qui donne ces cours ?
En deuxième année, il n'y avait que des professeurs d'université. Et en troisième année, j'ai réussi à avoir l'enseignement d'un herboriste qui était Monsieur Tanguy, qui était herboriste derrière la gare du Nord, et qui était un herboriste diplômé, bien sûr, et qui était tout à fait extraordinaire. Et puis, Mimi a bien voulu venir pour former les herboristes et les former à l'examen, parce qu'il y avait ce fameux examen avec 50 plantes fraîches et 50 plantes sèches. Et si vous voulez, elle dit qu'elle a fait de l'herboristerie comme ça de façon légère, mais je ne l'ai jamais vue se tromper en donnant le nom d'une plante. Et j'ai emmené Mimi partout avec moi sur le terrain. Elle les connaît très bien, ces plantes.
Donc vous, votre spécialité, finalement, c'était la reconnaissance des plantes. C'est ça que vous enseignez à l'école des plantes de Clotilde Boisvert.
Oh ben, j'enseignais pas. J'étais pas...
C'était des travaux pratiques, en somme. C'était un enseignement de travaux pratiques pour reconnaître les plantes. Infiniment précieux, puisque je pense qu'il n'y en avait pas d'autres en France. Jadis, les pharmaciens connaissaient ça très bien. Et à la faculté de Port-Royal, j'ai vu, c'était souvent le jardinier qui m'a montré des grandes... un herbier où on tirait les planches. Et il y avait justement toutes les plantes qui étaient prêtes pour que les élèves en pharmacie les reconnaissent. Et c'était des plantes qui étaient renouvelées, qui étaient fraîches, qui étaient impeccables. Et puis tout ça, c'est complètement perdu. Et après, on trouvait quelques bocaux avec des plantes totalement desséchées. Ils n'ont plus su. Mais au début, ils connaissaient ça très bien, les pharmaciens aussi.
Alors, on rentre dans le séchoir.
C'est les chouettes. Elles rentrent par là.
Les chouettes, ben
ouais, ça, c'est le colloque de réjection, ça.
Et le séchoir, donc, est...
là. Un peu sombre, et c'est normal, c'est une pièce. Alors, il y a différents standards pour sécher les plantes. En tout cas, en Europe, on veut que les plantes conservent l'aspect qu'elles avaient quand elles étaient vivantes, qu'elles conservent leurs arômes, leurs couleurs. Donc pour ça, la meilleure solution, c'est de les sécher dans l'obscurité, dans un endroit sombre. Il y a d'autres endroits sur Terre ou d'autres époques où on a fait autrement, on les a séchés au soleil, notamment dans les civilisations qui sont plus solaires, où on dit que c'est le soleil qui va donner le pouvoir de guérison à la plante. Il y a des certains endroits où ça serait suspect de sécher les plantes dans le noir. Ici, on fait comme ça. Donc c'est pour ça que c'est assez sombre. Et en fait, elles sont étalées comme ça sur des clés. C'est très simple. Hein. C'est un cadre en bois sur lequel on a fixé une trame. Donc ça peut être du tissu, ça peut être la moustiquaire, ça peut être quelque chose en tout cas qui va permettre de retenir la plante. On l'étale dessus, on couche mince et qui va laisser passer l'air.
Comment se fait l'apprentissage pour le paysan herboriste? Il y a 30 ans, comment vous apprenez votre métier ?
Il y a 30 ans, effectivement, c'était un peu compliqué. J'ai acheté des livres, j'ai beaucoup appris par les livres. Je me suis formé aussi dans un centre de formation qui existe toujours dans la Drôme, à Nyons, un CFPPA, donc un centre de formation agricole, qui proposait une formation à la production des plantes, mais plus à l'époque orientée vers une production de type très classique, avec de la culture mécanisée, des désherbants. Donc moi, j'ai beaucoup appris par les livres, par les rencontres. Aujourd'hui même, il n'existe pas encore un véritable diplôme de paysan herboriste. C'est en cours de création, j'espère qu'on va arriver à le faire aboutir. Mais on apprend des choses, mais dans le cadre de formations plus généralistes.
Là, elles sont à quel stade de...
Là, elles sont sèches. On peut en faire des infusions, elles sont absolument prêtes à l'emploi.
Et là, le ginkgo, il était dans le jardin?
Alors, ce ginkgo, là, il pousse ces deux arbres, en fait, qui ont été plantés, je pense, il y a à peu près 150 ans, dans un petit château à une quinzaine de kilomètres d'ici. Au 19e, dès qu'on avait un peu, qu'on était un peu aisé, la moindre famille un peu bourgeoise de province, il fallait qu'elle ait son séquoia, son ginkgo biloba. Donc aujourd'hui, voilà, c'est des arbres qui ont 150 ans et qui trouvent une autre fonction. À l'époque, c'était un peu un accessoire de prestige. Aujourd'hui, ça devient un objet de cueillette pour les néo-herboristes. Le temps des arbres n'est pas le nôtre. Donc eux, ils traversent les époques et ils trouvent, retrouvent, perdent et retrouvent à nouveau des usages, des destinations qu'on n'imagine pas. Celui qui les a plantés n'imaginait pas ce qui allait se passer un siècle plus tard.
Des simples et des mélanges, l'herboristerie sous certificat, avec Thierry Thévenin, Ida Bost, Marie Roubieux, Clotilde Boisvert et Michel Pierre. Merci à Carole Brousse et au laboratoire d'ethnobotanique du Muséum d'histoire naturelle de Paris et à Madame Roche Bruna. Lecture, Daniel Kenigsberg. Documentation INA, Marthe-Laurent Clotilde. Prise de son, Jean-Pierre Pernel, Dalia, Philippe Bredin. Mixage, Éric Boisset. Un documentaire de Franck Toraval, réalisé par Anne Fleury. Yeah!